Chers amis auditeurs, bonsoir. Vous écoutez le Libre Journal de Lucie Rabouille, animé par Lucie Rabouille. Ce soir, comédien, metteur en scène, auteur prolifique, critique redouté du Figaro Magazine ou de Valeurs Actuelles, fondateur et directeur du Théâtre du Nord-Ouest, ancien cabaret des années 30 devenu citadelle du répertoire. Il semble avoir décidé très tôt que sa vie serait consacrée aux planches, dès l'adolescence, dit-on. Jean-Luc Génère, bonsoir.
Bonsoir.
Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Nous sommes donc moi et Claude Séraphin qui m'anime ce soir. Bonsoir, cher Claude.
Bonsoir chers auditeurs.
Nous sommes clients et réguliers auditeurs du Théâtre du Nord-Ouest. Publié depuis plusieurs années des essais qui claquent un peu comme des manifestes ironiques pour en finir avec le théâtre que j'ai sous la main, pour en finir avec la culture, pour en finir avec la liberté, provoquer quelque part c'est mieux sauver. Car derrière cette ironie, il y a une conviction profonde. Le théâtre n'est pas un divertissement, n'est pas un spectacle, n'est pas un happening, n'est pas un one man show. Il est une affaire de vérité. Et plus encore, il est une affaire d'incarnation. Le théâtre est ce moment fragile où des corps, des voix, des silences se risquent devant d'autres corps, des corps qui sont peut-être d'ailleurs plus qu'eux-mêmes. Le théâtre demeure ce lieu fragile où des corps, des voix, des silences se risquent. Rien n'est enregistré, tout peut mourir, faillir, faiblir à chaque instant. Jean-Luc Génère le dit magnifiquement. Assister à un trou de mémoire, à un fou rire, à cette sortie involontaire du personnage, c'est assister à une mort en direct. Le théâtre est l'art le plus vivant parce qu'il est l'art le plus exposé à la mort. Génère parle d'un théâtre chrétien. Expression qui, elle seule, fait lever quelques sourcils. Quand Tertullien dénonçait une assemblée particulière d'impudicité, il parlait du théâtre. Quand Bossuet s'effrayait d'y voir monter des filles honnêtes. Quand même Pidouze mettait en garde les comédiens contre les vertiges de l'incarnation. Comment penser la scène autrement que comme un lieu de péril moral? Et pourtant, le pape Jean-Paul II dirigeait une troupe clandestine. Claudel, Peggy, Mauriac, Julien Green ont fait du théâtre un lieu de combat spirituel. Alors le théâtre est-il un scandale ou une liturgie profane? Une illusion ou une communion? Un art mourant ou le dernier sanctuaire du réel? Ce soir, Jean-Luc Génère, nous allons parler d'un art qui prétend toucher la vérité par le mensonge, atteindre la liberté par le texte et retrouver la réalité à travers la fiction. Autrement dit, nous allons parler tout simplement du théâtre. Cher Jean-Luc Génère, il y a ce petit livre qui est paru il y a quelques années aux éditions Atland. Vous nous dites qu'en fait, le théâtre cartonne à Paris. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Aussi, le titre est assez mensonger, je le dis aux auditeurs, c'est de la publicité mensongère, ça se veut un pamphlet, mais en fait, c'est une sorte d'éloge. Je crois qu'il y a 200 théâtres à Paris, vous nous l'apprenez. Je crois qu'il y en a 1000 à Moscou, mais Paris était aussi une très grande ville de théâtre. Et si on ajoute les lieux de théâtre pour enfants, 400 théâtres. Alors la France est-elle encore une grande nation théâtrale, Jean-Luc Génère?
C'est une grande nation théâtrale, heureusement. En plus, soutenue par l'État, ce qui malheureusement ne durera pas. Et puis surtout, le théâtre, il faut le dire et le redire, c'est l'art de l'avenir. Puisque aujourd'hui, avec l'IA, qu'est-ce qui va se passer, hein? Le cinéma va peu à peu disparaître. Tout ce qui est les métiers à côté, les synchros, les traductions, tout ça va disparaître. Mais on aura toujours besoin du vivant. Oui. On a toujours besoin de l'art vivant. Ce qui fait que paradoxalement, le théâtre va devenir financièrement de plus en plus pauvre et de plus en plus nécessaire à la cité et de plus en plus aimé par les spectateurs. Donc il n'y a pas à s'inquiéter sur le plan artistique, il y a à s'inquiéter sur le plan économique et financier, oui. Pour les gens du théâtre. Mais enfin, nous, gens de théâtre, la problématique n'est pas l'argent que l'on gagne. La problématique, c'est de créer, c'est de faire, c'est d'apporter, c'est de nourrir, c'est d'être le miroir. Voilà. Et on a. C'est ça notre mission essentielle et on n'a pas à s'occuper des affaires économiques, c'est pas notre.
Seuls subsisteront les métiers dans lesquels subsiste une présence réelle.
Voilà, exactement, la présence réelle. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que c'est l'avenir. Hein. Il y a vraiment aucune inquiétude à avoir sur le théâtre. Hein. Aucune.
Toutefois, le livre est inquiet. Pour en finir au théâtre. Vous semblez serein, mais le livre est quelque peu inquiet.
Ah, vous trouvez.
On a parfois l'impression que le théâtre, c'est du moins l'impression qui ressort à la lecture de l'ouvrage, pour en finir avec le théâtre, Jean-Luc Génère. Que le théâtre s'est dissous dans le one-man show, l'humour, le sociologique, la petite morale politiquement correcte, le happening, le spectacle. Voilà. Dites bien, le théâtre, c'est pas du spectacle. Parce que ce chiffre, 200 théâtres, 400 théâtres, si on compte les théâtres juvéniles, est un chiffre trompeur, en fait. Il cacherait une réalité qui serait un peu moins ragoûtante, justement. Un théâtre qui serait finalement une sorte de divertissement.
Voilà, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'il y a effectivement à peu près 200 théâtres à Paris, sinon plus avec la banlieue, et un nombre de spectacles considérable. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a réellement de pièces de théâtre? C'est toute la problématique. Moi qui suis critique, comme vous le disiez tout à l'heure, je vais au théâtre très souvent, mais j'ai beaucoup de mal à trouver des vraies pièces de théâtre. Et je vois, par exemple en ce moment à Paris, vous avez 150 one-man shows, peu près. C'est-à-dire que le one-man show, ce n'est pas du théâtre. Voilà. Bon, alors, vous avez des pièces qui sont en fait des spectacles, des comédies musicales, de la musique, des choses humoristiques, du théâtre distancié. Enfin, vous avez tout, mais des vraies pièces de théâtre pleinement incarnées, c'est-à-dire ce théâtre d'incarnation que je défends. Bon, il y en a très peu. Il y en a encore quelques-unes, heureusement. Mais il y en a très peu.
Vous parlez beaucoup de la politique culturelle, et notamment de l'offre du ministère de la Culture, cette politique de subvention que vous décrivez comme très administrative, très technocratique. Marc Fumaroli, dans l'État culturel, semblait établir une sorte de continuité entre le mécénat façon Louis XIV et le ministère de la Culture façon Jack Lang. Culture d'État, culture subventionnée, culture politique. Vous-même attaquez l'État culturel et la politique de subvention. Est-ce que le théâtre a besoin de mécènes, Jean-Luc Génère?
Ben, il a besoin de mécènes, il a besoin de mécènes, mais ce mécène peut aussi être l'État. C'est pas du tout gênant. Moi, je suis tout à fait pour les subventions, je suis tout à fait pour l'aide de l'État, pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a aucune économie viable au théâtre. Vous faites un spectacle avec plus de 3 comédiens, il n'est pas rentable.
Donc, vous dites 200 euros par siège dans le théâtre public.
Oui, c'est ça, oui, à peu près.
Et le théâtre public est plus cher que le théâtre privé.
C'est un paradoxe, c'est que le théâtre public devient plus cher que le théâtre privé. Pourquoi ? Parce que le théâtre privé, il y a maintenant, quand vous allez au théâtre, une personne sur deux, sinon deux sur trois, passe par billets réduits, où on paie. Alors que c'est interdit dans le théâtre public. Ouais. Ce qui fait que paradoxalement, vous avez des places à 40 euros à la Comédie Française et vous avez des places à 15 euros, 20 euros dans le théâtre privé. Alors que le théâtre privé n'est pas subventionné. Enfin, il est subventionné d'une manière indirecte. Enfin, en tout cas, certains théâtres privés sont subventionnés. Ça, je pourrais vous expliquer ça. Et puis, à côté de ça, eh bien, vous avez ce théâtre public qui, normalement, n'existe par nos impôts et avec des prix de place qui deviennent absolument ahurissantes.
Par exemple, le théâtre de poche, qui est théâtre, alors on pourrait parler du théâtre du Rouest, mais le théâtre de poche qui est dans le théâtre privé n'est pas subventionné directement, par exemple.
Non, le théâtre de poche, il fait partie du fonds de soutien, donc il est subventionné indirectement.
C'est-à-dire ?
Je peux très bien expliquer ce que c'est que le fonds de soutien. Vous savez, on va résumer. Il y a 4 formes de théâtre à Paris. Hein, à Paris, en France. Hein. Vous avez le théâtre public qui est subventionné directement. Et puis vous avez le théâtre privé qui, lui, est subventionné d'une manière indirecte par le fonds de soutien. Le fonds de soutien, c'est une caisse, si vous voulez, d'assurance. Hein, où chaque théâtre doit donner une petite somme sur les... Voilà, et ça rentre dans une caisse. Mais simplement, ce que les gens de théâtre ne disent pas, c'est que cette caisse, elle est subventionnée par l'État et par la ville de Paris. Et elle est là pour subventionner les déficits des spectacles. Sinon, vous auriez que des spectacles, que des théâtres qui ferment, hein, s'il n'y avait pas le fonds de soutien pour les théâtres privés. Donc, c'est une manière indirecte d'aider le théâtre. C'est des subventions indirectes, si vous voulez.
Oui.
Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, à côté de ça, ensuite, vous avez une troisième forme de théâtre qui est les salles qui louent les salles, enfin, des directeurs de théâtre qui louent les salles aux troupes. Voilà. Et puis, vous avez nous. Mais nous, on a une politique complètement différente. Et
nous recevions Laurent Andrieux qui nous expliquait que derrière Molière, il y avait aussi parfois, notamment dans le Tartuffe, un coup politique. Forcer le parti des Vaux à faire sortir du bois, par exemple.
Oui.
Et vous-même dites que parfois le théâtre subventionné peut être politique.
Bah, c'est évident, parce que on le sait très bien qu'une certaine gauche a pris le pouvoir. Là, on est en plein jacquerie là, avec notre ami Lang. Quand il a augmenté les subventions, il était absolument... apparemment, ça va être très bien, mais les subventions n'étaient distribuées qu'à des gens qui défendaient un certain théâtre. Donc ça aussi, c'est problématique.
Et des gens comme Jacques Toubon ou Ayagon
Alors, c'est tout le problème de la droite, si vous voulez. C'est que la droite a toujours trouvé normal d'aider les metteurs en scène de gauche. Parce que la droite ne réfléchit pas, ne sait pas ce que c'est que le théâtre, ne sait pas ce que c'est qu'un théâtre de l'incarnation. Les gens... J'ai fait tout à l'heure une émission politique sur le sujet. C'est extrêmement simple. Les politiques ne savent pas ce que c'est que le théâtre. N'ont aucune idée. Ils font pour eux, c'est du spectacle. Et on fait la même chose entre Brecht et Molière, entre Molière et...
C'est leur métier, oui.
Oui, mais ils ne réfléchissent pas là-dessus. Ils ne savent pas pourquoi le théâtre sert à la cité.
Ils sont sur scène, voilà. Oui.
Parce que le théâtre n'a de sens que s'il est vrai. À mes yeux, bien sûr. N'a de sens que s'il est incarné. C'est-à-dire que si le comédien devient le personnage, Mais ça, c'est l'anti-Brecht, si vous voulez. Ce théâtre d'incarnation, c'est l'anti-Brecht. Et le problème, c'est que ce théâtre brechtien, il est devenu quasiment majoritaire en France. Avec des gens, comme je le dis toujours, qui, comme M. Jourdain, font de la prose sans le savoir. Ils font de la distanciation sans même le savoir, sans même comprendre qu'il y a une dimension politique dans le travail de Brecht. Donc ça pose vraiment des problèmes. Et on croit que c'est du théâtre, alors que ce n'est pas du théâtre, c'est du spectacle. Et c'est quelquefois du spectacle qui est dangereux. Alors que le théâtre incarné, on montre l'homme dans sa globalité, l'homme pleinement l'homme, le frère humain, l'autre soi-même. Et ça, c'est voilà. Mais pas du tout un ersatz d'homme, une petite partie d'homme, voilà, qu'on va sortir et donner à voir. On montre l'homme dans sa globalité, l'être humain pleinement humain.
Et pour en revenir à cette, alors pour, on parlera longtemps effectivement de cette incarnation par le théâtre. Pour en revenir à cette dimension strictement politique, vous dites, vous écrivez, page 109 du livre, il y a autre chose. Si le verbe se fait chair, ce verbe n'est pas n'importe quel verbe. C'est un verbe de France. C'est par la langue française, notre langue chargée d'histoire et de culture, que l'incarnation du comédien s'accomplit. Que l'hypostase peut-être, l'unité véritable d'un peuple, quoi qu'on en dise, se fait par la langue, se fait par l'histoire. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux alors pour fédérer une nation que de convoquer et rappeler ses racines, que de se reconnaître autour d'une même langue, que retrouver par le théâtre et tous les personnages qu'il génère à la fois une universalité et une identité. Que l'on soit noir, jaune ou blanc ou bleu, bouddhiste, juif, musulman ou chrétien, se retrouver dans Célimène, Alceste ou Philinte, pleurer avec Bérénice, frémir et aimer avec Chimène ou avec Rubla, cela forge une identité, cela forge un peuple, encore faut-il, répétons-le une dernière fois, qu'il y ait une vraie Célimène, un vrai Alceste, une vraie Bérénice, un vrai Rubla. Il y a un moment dans l'ouvrage également où vous dites que sans cette culture commune, sans cette incarnation commune, un pays ne peut s'effondrer qu'en guerre civile.
Oui, puisque le théâtre c'est le miroir. Donc c'est important de voir qui est l'autre. L'autre, c'est un autre soi-même, mais on ne se connaît pas et on oublie. Le théâtre oblige à regarder, si vous voulez. Il oblige à écouter. Dans la vie, on voit, on entend vaguement les gens, les autres. Là, on paie sa place pour regarder son frère humain vivre et agir. Pour le décortiquer dans la psychologie, dans ses vérités, dans sa complexité, dans ses contradictions, voilà. C'est ça qui est passionnant, à condition que ça soit de vraies personnes, et que ça soit pas des ersatz de personnes.
C'est d'actualité.
Que ça soit pas des archétypes, si vous voulez. Donc c'est ça. Là, en ce moment, je suis en train de monter Lorenzatio, qui va commencer là dans quelques jours. Lorenzatio, c'est problématique. Je veux dire que dès Lorenzatio, un type qui est là, qui va tuer le tyran, et le fait de tuer le tyran, de se salir les mains, tout ça, on va utiliser le mal pour le bien. C'est abyssal.
Et il y a des pages dans le livre où vous dites qu'une fripouille comme François Mitterrand peut davantage faire rayonner la France qu'un paltoquet comme François Hollande, quoi qu'il soit peut-être un peu moins malhonnête.
Exactement, exactement, bien sûr. Je dis même à un moment donné que peut-être que le pays serait mieux porté d'avoir Strauss-Kahn à sa tête plutôt que Hollande.
Et Strauss-Kahn
qui était un prix à pic.
Parce que c'est vrai qu'on fait une émission qui est totalement hors du champ de l'actualité, qui est pourtant riche, et c'est vrai que le mot d'affrontement civil, de guerre civile, revient beaucoup dans le commentaire de l'actualité. Et quelque part, il y a l'actualité de théâtre, puisque si on voyait la violence sur scène, si on voyait des humains sur scène, peut-être qu'on aurait moins envie de les tuer, ou de voir en eux, effectivement, l'archétype d'une seule idée, qui, en plus de cela, est souvent caricaturé.
Voilà, c'est tout à fait ça. Et c'est important de voir qui est son frère. On peut pas y échapper. Le théâtre, c'est une catharsis. C'est-à-dire que il y a une évolution absolument incroyable grâce aux classiques français. Parce que c'est les classiques français qui ont fait passer une catharsis, si vous voulez, sociale, à une catharsis individuelle. Parce que les gens comme Racine, Corneille, Molière,
c'était
etc.
C'était quoi avant, du coup?
Avant, c'était les Grecs, c'était le théâtre grec, c'était le théâtre qui était.
Entre deux, il y avait une espèce de théâtre. Quand vous parlez d'archétype, il y avait comme un théâtre de caractère,
oui,
c'est ça?
De caractère en gros. Tandis que là, avec des gens comme de génie comme Racine ou Molière ou Corneille, pour ne citer qu'eux, ils ont rajouté la psychologie, la vérité. La subtilité de ce qu'est un être humain. Et c'est ça qui nous a donné à voir. Alors le problème ensuite, c'est dans quelle langue? Alors ça c'est le, oui. Là, on parle du français tout à l'heure, mais quel français? Mais ça se passe en français alexandrin, c'est-à-dire en français 12 pieds. Mais c'est une langue, Donc à l'intérieur de cette langue, à l'intérieur de l'alexandrin, eh bien, vous avez les mêmes symptômes que les gens ont peur, les gens aiment, les gens souffrent, les gens se tuent, les gens... Voilà, c'est les gens violent. Dans Racine, il y a des scènes de viol qui sont absolument terrifiantes. Voilà. Mais ça se dit en alexandrin. Mais ce n'est pas plus différent que de parler allemand, que de parler anglais, que de parler Musset, que de parler Claudel, que de parler... Oui. Voilà, à chaque fois, c'est des langues. Mais comme moi, j'ai ma langue, comme vous avez la vôtre, même si on se comprend parce qu'on est français, oui. on est à peu près socialement, on vient à peu près des mêmes choses. Mais si on parle avec un type du 93, ou on va en Afrique ou au Québec, où c'est des Français un peu différents, mais l'homme est le même. Simplement, c'est qu'il va s'emparer de la langue d'une autre façon. Et donc, il faut juste rentrer dans la langue. Et on va rentrer dans l'alexandrin, et puis à partir du moment où on est rentré dans l'alexandrin, eh bien, c'est magique. Et paradoxalement...
Racine fait parler Attila sous sa tente en alexandrin de la décadence des empires.
Voilà, c'est Corneille, mais
Hippolyte s'en amuse dans les origines de la France contemporaine en disant cette universalité, l'impression de cette universalité de l'homme par la langue a donné aux Français des vertiges, notamment pendant la Révolution. Mais c'est vrai que oui, voir Attila et Vladimir parler du déclin des empires et de la France qui s'élève et de Rome qui est prête à choir, alors que ça devait probablement être des chefs de guerre mal dégrossis, c'est vertigineux.
Oui, bien sûr, c'est vertigineux.
Oui.
Dans Iphigénie, il y a une scène de viol qui est absolument ahurissante. Eriphyle, qui est violé par Achille, devient et ce viol la révèle. Donc c'est un truc qui est complètement insensé, qu'on ne pourrait même pas, aujourd'hui, on met ça sur un plateau de théâtre, les gens se mettent à hurler.
Barbet l'a dit, on parlait de Barbet de Réville hier, il l'a dit dans l'histoire sans nom, un abus qui sanctifie, quelque chose de terrifiant, effectivement,
une
idée terrifiante en soi, et qu'on ne peut que représenter, finalement, qu'on ne peut pas expliquer, qu'on ne peut pas... Oui.
C'est exactement ce qui doit se passer, c'est-à-dire que, sous prétexte, moi, que je suis un auteur qui revendique très clairement son catholicisme, alors on m'envoie souvent des pièces de Saint-Intel, de Saint-Valin, en disant, il va faire un théâtre, mais non, le théâtre est là pour montrer l'homme, aussi bien le saint que le monstre. Et quelquefois, le monstre est dans le saint, et le saint est dans le monstre. Enfin, c'est la complexité humaine. Et c'est ça. Et moi, quand sur un plateau, je montre tout. Mais je peux monter une pièce comme, la pièce de Peggy, le mystère de la charité de Jeanne d'Arc, par exemple, et puis une pièce violente comme Iphigénie ou comme ou Britannicus ou des
Oui, alors à ce propos, Jean-Luc Génère, notamment dans votre ouvrage Pour un théâtre chrétien, qui je crois est paru en 97.
Oui, ça fait un bail.
Mais vous êtes un homme constant, alors les thèses que vous y développiez correspondent à ce que vous nous dites ce soir. Il faut distinguer ce que vous appelez le théâtre chrétien du répertoire chrétien.
Exactement.
Et alors, il semblerait à vous lire que le théâtre chrétien, ce soit un théâtre, en quelque sorte, un théâtre de la raison, de la cohérence, là où, par opposition notamment au théâtre de l'absurde, au théâtre qui montre l'homme comme dépossédé de sa destinée, en proie à un monde illogique. Ça ne se rattache pas forcément aux seuls auteurs dits chrétiens.
Bien sûr.
Claudel ou...
Bien sûr.
Et alors, de façon générale,
ce sont des chrétiens sans le savoir. Si vous
bien
de
sûr.
Façon, le Christ est venu pour tous les hommes, pas seulement pour... Donc,
Qu'est-ce qui caractérise, selon vous, au-delà de ces auteurs chrétiens, le théâtre chrétien tel que vous le concevez?
Le théâtre chrétien, c'est le théâtre incarné. C'est un théâtre où le comédien devient le personnage. Voilà, c'est ça. Et dans sa globalité, c'est pour ça que, par exemple, comme vous êtes allé plusieurs fois au Théâtre du Nord-Est, vous avez vu que dans les intégrales d'auteurs que je montais, vous verrez qu'il n'y a jamais eu une intégrale de Ionesco, par exemple, puisque vous le citez. Pourquoi ? Parce que Ionesco, dès l'écriture, ne met pas des personnages, il met des archétypes. Donc ce n'est pas des personnages. Voilà. Donc moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, ce sont des personnages. Voilà. Alors maintenant, il y a des pièces, par exemple, je ne vais pas chez Molière, il y a des pièces qui sont incarnées, puis des pièces qui ne sont pas incarnées.
Mmh. Et très concrètement, ça intervient dans la mise en scène. Est-ce que vous diriez que toutes les mises en scène de Molière mettent en avant ce personnage au sens de l'incarnation ou
alors, ensuite,
spécificité du théâtre du Nord-Ouest.
Ensuite, il y a l'intervention du metteur en scène qui peut ne rendre pas chrétien une pièce qui l'est.
C'est le cas.
On peut très bien monter, moi je le vois souvent, Tartuffe d'une manière pas du tout incarnée. On peut monter n'importe quel auteur d'une manière pas incarnée. Ça, ça dépend du metteur en scène.
Et c'est le cas.
Ah oui, bien sûr, ça arrive très souvent. Ben, de plus en plus même. Maintenant, on fait n'importe quoi avec les auteurs classiques ou avec des grandes œuvres. Voilà, on fait joujou, pour moi, c'est faire joujou avec des œuvres.
Il y a éditeur worst voilà. Off des théâtres oui. parisiens.
Alors que moi, si je monte, quand j'ai monté Tartuffe, je veux qu'on rencontre Tartuffe. Mm. Voilà, je ne suis pas en train de faire une discussion pour attaquer, je ne sais pas, comme on va le montrer, avec une mise en scène distancée, comme attaquer l'église à travers de Tartuffe, vous voyez, par exemple. Donc, ce n'est pas ça.
Et alors, vous écrivez « linéarité, réalité, vérité, cohérence, globalité », ce sont quelques-uns des mots qui sont au service des créateurs du théâtre chrétien.
Absolument.
Et par opposition, « incohérence, discontinuité », ce sont des petits éléments de mort, et tout ce qui va au théâtre faire intervenir ces petits éléments de mort empêchera toute crédibilité des personnages. Et vous concluez sur ces mots « l'homme de théâtre chrétien sera d'abord un chasseur de mort ». C'est donc un chasseur de mort que nous avons parmi nous ce soir.
Écoutez, c'est pas mal ce que j'ai écrit. mais je suis tout à fait d'accord avec ce que j'ai écrit là, parce que c'est tout à fait ça.
Est-ce que vous appeliez tout à l'heure le brechtisme de manière générale ? C'est tout ce qui s'oppose à ce théâtre incarné.
Ah oui, c'est le théâtre de distance, c'est-à-dire que c'est le théâtre où au lieu de montrer l'homme dans sa globalité, on va en montrer des petits morceaux et on va les donner à voir. Comme je parlais de Tartuffe tout à l'heure, comme je disais, on va monter Tartuffe, mais on va se servir de Tartuffe pour dire quelque chose contre l'Église, par exemple, ou contre les dévots. Alors que ce n'est pas ça. Ce qui compte, c'est que dans une pièce comme Tartuffe, tout le monde a raison. Et moi, quand j'ai monté Tartuffe, je n'ai pas du tout ridiculisé Tartuffe. Non. Simplement, c'est que c'est un être humain qui a ses propres... Voilà. Pourquoi Orgon est fasciné par Tartuffe ? Bah, peut-être parce que c'est la seule personne avec laquelle il a rencontré un interlocuteur, même si, qui est nourri de réflexions.
On a beaucoup fait dire aux bacheliers, Bergson à l'appui, que ce qu'il y avait de drôle chez Molière, c'est la mécanique du comique, c'est le fait que les personnages n'étaient pas humains.
Mais c'est stupide. C'est stupide.
Voilà.
C'est stupide, comme on vous dit, je ne sais pas.
Tartuffe était mécaniquement hypocrite.
Voilà, avec Feydeau, par exemple, il y a la mécanique Feydeau. Bah non, mais Feydeau. Moi, je l'ai monté plusieurs pièces de Feydeau, c'est totalement incarné, pour certaines pièces. Le problème, c'est qu'il y a des œuvres qui, dès l'écriture, ne sont pas assez incarnées. Par exemple, puisqu'on prend l'exemple de Molière, vous avez, les Fourberies de Scapin, par exemple. Mmh. Dans les Fourberies de Scapin, vous avez des personnages qui sont totalement incarnés, Scapin, Sylvestre, par exemple. Et puis, à côté de ça, les pères, qui sont des archétypes, qui sont des caricatures. Bon, alors là, c'est des pièces qui sont limites entre les deux. Mais si Molière n'avait écrit que Scapin ou que ses petites farces, il n'existerait plus. Mais heureusement, il a écrit ses chefs-d'œuvre, le Misanthrope, Tartuffe, les femmes savantes, l'école des femmes, qui sont vraiment là, totalement incarnées, qui par l'écriture sont totalement incarnées. Moi, je joue Arnolphe, par exemple, dans l'école des femmes, je suis pleinement Arnolphe, même si je le dis, si c'est en alexandrin. Voilà. C'est ça qui fait la différence. Alors que vous voyez les premières farces de Molière, c'est du divertissement, ça n'a aucun intérêt. Et on va avoir l'archétype de l'avare, l'archétype du jaloux, l'archétype du... Voilà, vous voyez.
Connaissez-vous ce snobisme qui plaît beaucoup à Claude Séraphin de rejouer les premières pièces au prétexte qu'elles auraient été oubliées, qu'il faudrait les redécouvrir. Et c'est le cas, par exemple, pour les premières pièces de Molière.
Oui, mais c'est des farces. C'est des farces qu'il faut redécouvrir toujours. C'est des œuvres qui, dès l'écriture, permettent l'incarnation.
Oui.
Mais c'est pareil avec les metteurs en scène. Vous avez des metteurs en scène qui vont incarner, puis des metteurs en scène qui ne vont pas incarner. C'est des choix de travail. Et c'est contre ça, moi, que je me bats. C'est que de plus en plus... Le théâtre que je vois, il est de plus en plus désincarné. Les spectacles que je vois au théâtre à Paris, c'est de plus en plus désincarné. C'est de plus en plus brechtien, c'est au sens large du terme. Hein ? Et des vraies pièces incarnées, avec des vrais personnages dont on peut se projeter en empathie avec eux, il n'y en a pas beaucoup. Hein, pas beaucoup. C'est assez rare.
Jean-Luc Génère, Peut-être pourrait-on aborder votre vie et votre parcours que nos auditeurs ne connaissent pas forcément, parce que bien qu'ils soient familiers de vos émissions, je crois que vous n'aimez pas beaucoup parler de vous-même, du théâtre du Nord-Ouest, de vos propres mises en scène. Voilà, nous voulons un Jean-Luc Génère incarné ce soir. C'est donc dès l'adolescence que vous avez décidé de dédier votre vie au théâtre. Alors, votre père était un homme de lettres et un critique de théâtre, Jean-Baptiste Génère.
Oui, absolument. Mon père était. C'est pour ça que je suis allé. Ma mère est morte très jeune, quand j'avais 13 ans. Et à partir de 13 ans, je suis allé. Mon père emmenait. J'avais un frère et une sœur. De temps en temps, mon frère, de temps en temps, ma sœur. Et puis finalement, il n'emmenait que moi, parce qu'il n'y a que moi que ça passionnait. Donc à partir de 13 ans, je suis allé au théâtre quasiment tous les soirs.
Une destinée moliéresque, puisque je crois qu'on dit que le jeune Molière, quand il a perdu sa mère...
voilà, c'est ça. Mais je ne pensais pas du tout faire du théâtre, hein. C'est un pur hasard.
Comment, la vie de Monsieur Molière.
C'est un pur hasard, c'est que j'étais au lycée, Janson de Sailly, hein, pour ne rien cacher. Et puis j'avais un copain qui était là et qui montait des pièces, qui s'appelle Olivier Schnebeli, qui a été un chef d'orchestre assez connu.
Il y avait des troupes de théâtre comme ça dans le lycée.
Oui, oui, il avait une troupe, et puis comme il me voyait un peu avoir le verbe facile avec le professeur, il s'est dit, tiens, j'ai un petit rôle pour lui, alors il m'a proposé de jouer le pauvre, et puis comme il jouait Louis Ganarel, petit à petit, quasiment tout de suite, tout le monde parlait, puis à un moment donné, on n'a plus écouté que moi. Parce que c'était mon don, et je l'ai compris là, quoi.
Bien sûr.
Et là, depuis l'âge de 15 ans ou 16 ans, j'ai fait plus fait que ça.
Oui, bien sûr. Et alors, avant la grande épopée du théâtre du Nord-Ouest, il y a eu d'abord la Compagnie de l'Élan, justement, au lycée de Janson de Sailly, le Théâtre 13 et la Crypte Sainte-Agnès à l'église Saint-Eustache. Qu'est-ce que c'est que la Crypte Sainte-Agnès
J'ai dirigé d'abord, on a joué dans plein de théâtres, mais j'ai dirigé d'abord le Théâtre 13.
Oui.
Dont on a fait, c'est grâce à moi qu'il est devenu théâtre d'arrondissement, parce que j'avais envoyé des mots à Chirac, qui l'avait transformé, etc. Bon, en grande partie. Et puis ensuite, après, pour des raisons, on m'a proposé la direction définitive du Théâtre 13, mais je ne voulais pas me coincer.
D'accord.
Et puis j'ai trouvé ce lieu absolument extraordinaire, qui est la crypte de l'église Saint-Eustache, qui s'appelle la crypte Sainte-Agnès. Et là, pendant 10 ans, j'ai fait du théâtre. Et puis, il y avait un curé qui nous avait accueillis, il était un type formidable. On l'a déplacé, l'église. Et ils ont nommé un autre curé avec lequel je m'entendais moins, parce que c'était un curé de gauche. Dieu ait son âme, il est mort maintenant. Et qui me reprochait de faire du théâtre élitiste. Alors que lui, c'était un curieux. Voilà, il me disait, mais personne ne comprendra, Molière, Racine, tu comprends, tu montes du Racine, personne ne comprend rien. Non, non, il faut des... Alors finalement, au lieu de faire comme... me dire de partir doucement, il a fait ce qu'on fait aujourd'hui, maintenant, c'est-à-dire qu'on fait venir la commission de sécurité et qui vous disent parce que c'est dangereux de jouer dans cette crypte. Voilà. Et c'est ça qu'on est parti, bien sûr. Ils utilisent maintenant l'utilisation de la sécurité, ça serait un sujet.
Et alors, si vous avez entrepris aussi des études de théologie, puisque vous êtes licencié en théologie,
j'ai une licence de théologie à l'Institut catholique. Oui.
Est-ce que c'est parce que vous aviez déjà entrepris de donner corps à ce théâtre chrétien, ce théâtre de l'incarnation que vous aviez conçu? C'est en complément, en quelque sorte, de votre parcours d'homme de théâtre?
Oui, c'est un petit peu différent. C'est que j'ai vécu longuement pendant une dizaine d'années avec une des grandes spécialistes du bouddhisme en France, qui s'appelle Véronique Loiseleur. Elle a écrit pas mal de livres. Elle est devenue la femme d'Arnaud Desjardins. Et puis elle m'accusait de faire mon catholicisme à moi. Et puis je me suis dit que ça serait intéressant de voir un peu si vraiment je faisais mon catholicisme à moi, et si j'étais en désaccord avec l'Église. C'est pour ça que j'ai fait 7 ans de 7 ans. J'ai fait la formation C, tout en ayant la troupe d'ailleurs.
Et vous êtes spécialisé du coup?
Comment?
Vous avez fait une thèse, une spécialité?
J'ai fait une licence, oui.
Ah oui.
J'ai fait une thèse, oui.
Oui, sûr, parce que c'est intéressant.
Pour comparer...
Désolé d'assommer les auditeurs.
J'en parle pas mal dans mon livre pour en finir avec le théâtre chrétien, d'ailleurs. Oui. J'en parle pas mal. Non, j'ai fait une thèse pour comparer les évangiles de l'enfance, pour essayer de montrer en quoi le Christ est vraiment, de par la volonté des évangélistes et par le choix des mots, est vraiment le Christ, alors que Jean-Baptiste n'est pas le Christ, parce que la structure de la naissance de Jean-Baptiste et celle de Jésus, qui sont construits exactement pareil, avec des déplacements qui montrent bien la volonté théologique de dire que Christ est, que le Christ est bien fils de Dieu, quoi. Voilà. Et non pas un prophète, comme nos amis musulmans ou juifs le croient.
Bien sûr. Alors, tout cela vous a conduit en tout cas à devenir le directeur du Théâtre du Nord-Ouest, que vous êtes encore aujourd'hui. Je crois que cette aventure a commencé en 97.
Oui, c'est ça, ça va bientôt faire 30 ans, oui.
Et alors, c'est un lieu historique qui était un cabaret des années 30. Je crois qu'il existe un certain nombre d'anecdotes que vous vous plaisez à raconter sur ce lieu où, si j'ai bonne mémoire, Édith Piaf et Marcel Cerdan se sont connus.
C'est oui, tout à fait. Il y a la loge encore d'Édith Piaf au Théâtre du Nord-Ouest. Oui, tout à fait.
Et alors, vous...
C'était un musical. Et ensuite, ça a été un cinéma, un musical, ensuite un lieu de... Voilà, puis moi, je l'ai transformé en théâtre.
Alors, l'ensemble des comédiens sont bénévoles, c'est bien cela.
L'idée, elle est très simple, hein, parce qu'aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure sur la multiplication des one-man shows, des solos pour des raisons économiques, il y a de plus en plus, parce que quand vous avez un seul comédien, on peut le payer, c'est pas compliqué. Si, au Théâtre du Nord-Ouest, si j'avais que des one-man shows ou des spectacles avec deux comédiens, tout le monde serait payé, il n'y aurait pas de problème. Bon, ben moi, je n'ai pas fait du théâtre pour ça. Hein. Le problème, c'est qu'économiquement, plus de trois comédiens, vous ne pouvez, il n'y a pas d'économie possible s'il n'y a pas de subvention. Donc, la grande idée, c'est de se dire comment on va pouvoir financer les spectacles. Eh bien, la grande idée du Théâtre du Nord-Ouest, c'est de se dire, voilà, on va financer les spectacles, non pas par l'argent, mais par le travail. Voilà. Donc, nous mettons en production nos forces de travail, le temps, le talent, j'espère, le génie peut-être. Voilà, c'est ça qu'on met. Voilà. Et puis...
C'est le don.
Voilà, c'est comme ça qu'on peut produire des spectacles. On produit comme ça. C'est pour ça que je peux monter l'Organisation, l'équivalent de 15 comédiens, ce qui est quand même énorme, ce qui serait absolument immontable dans aucun théâtre de Paris sans subvention. Bon, donc c'est possible, mais c'est subventionné. Simplement, c'est pas subventionné par l'argent de l'État, c'est subventionné par le travail des comédiens, des metteurs en scène, des costumiers, enfin de tous les gens qui, voilà. Et puis, comme il faut bien manger, hein, peut-être que ça, vous posiez la question de savoir pourquoi cette programmation est comme ça. C'est une programmation en alternance qui ne se fait que par les disponibilités des comédiens. C'est-à-dire que on peut très bien, je sais pas, travailler juste en face au théâtre des nouveautés ou au théâtre des variétés, je dis ça parce que c'est arrivé plusieurs fois. Et puis les jours d'horloge, venir travailler au Théâtre du Nord-Ouest. Le problème, c'est quand vous avez 15 comédiens, bon, il y a des impossibilités, évidemment, parce qu'il faut bien que les gens mangent, donc voilà. Donc on peut le programmer que, là, je crois que sur les trois mois, on a dû le programmer 15 fois, pas plus. Non pas que je voulais pas qu'on se programme, mais parce que les comédiens n'étaient pas libres.
Les comédiens sont professionnels, votre
formation? Oui, ils sont professionnels, bien sûr.
Et alors nous posions, c'est vrai,
ils viennent de tous les horizons. Tous les horizons. Vous avez eu des comédiens, je sais pas, qui venaient de la Comédie Française, et puis des comédiens qui débutent complètement, des comédiens amateurs, si vous voulez, au sens, parce que moi je fais pas.
Vous formez des comédiens aussi quelque part, finalement, à votre façon.
Oui, enfin, si vous voulez. Parce que moi, j'ai toujours pensé que les cours dramatiques servaient à rien, sauf à faire des rencontres. Donc c'est en jouant qu'on devient comédien. Oui. Voilà. Moi, je n'ai pas pris de cours. Hein. Simplement, plus on joue, plus on est libre sur un plateau. Plus, voilà. Alors, simplement, c'est qu'il est évident qu'il y a un ton dangereux qui est le ton amateur, parce que les amateurs jouent entre eux, ils parlent faux, ils croient qu'il faut faire du théâtre, donc ils surjouent. Ouais. Voilà, tout ça est faux complètement, voilà. Donc, alors que les professionnels... Bon, voilà. Mais vous avez de tout. Vous avez au Théâtre du Nord, vous avez des gens qui vivent de la synchro, qui vivent du théâtre, qui vivent du théâtre pour enfants, qui vivent du cinéma, qui vivent là. Et puis vous avez des gens qui sont garçons de café, avocats, profs de philo. Vous avez de tout.
Prof de français.
Prof de français.
Une collègue de chez moi.
Voilà. Exactement. Vous avez de tout. De tout, de tout, de tout.
Et alors là où vous évoquiez tout à l'heure cette fameuse mainmise d'une certaine gauche culturelle sur le monde du théâtre, on pourrait penser, on peut se demander en tout cas si les comédiens sont justement réceptifs, recherchent ce théâtre incarné que vous proposez, ou si la tendance chez eux est justement à ce brechtisme. Est-ce que vous que vous faites école en quelque sorte?
J'espère, ne serait-ce que par des... J'ai eu pas mal d'assistants donc, qui maintenant font du théâtre incarné. Je crois, par exemple, Patrice Lecadre ou Anne Coutureau, ou des gens comme ça, bon, qui font des spectacles formidables à côté. Et puis, mais les comédiens, vous savez, la femme de Brecht, Hélène Wenzel, qui a joué Mère Courage, qui a créé Mère Courage, incarnait les textes brechtiens. Parce que c'est tellement plus jouissif d'incarner, d'être pleinement le personnage que de rester et d'écouter les théories brechtiennes du petit organon où on doit rester en distance. En fait, Brecht, hein, c'est un sous Diderot. Un Diderot qui a poussé le projet de Diderot jusqu'au bout. Hein.
Le paradoxe du comédien paradoxe contre du comédien. Lequel vous vous érigez.
Contre lequel je m'érige.
Précisez pour les auditeurs.
Simplement, Diderot le dit, et Brecht l'a développé, qu'il ne faut surtout pas que le comédien soit pleinement le personnage. Il faut qu'il reste en distance du personnage. Il faut qu'il montre le personnage qu'il joue. Et que, montrant le personnage qu'il joue, eh bien, il est à chaque fois toujours juste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il peut reproduire d'un jour à l'autre la même chose. Comme dans la danse, si vous voulez, où on refait les mêmes gestes ou les mêmes choses.
Oui.
Alors que quand on vit...
Le théâtre comme technique, plus que comme éthos.
Voilà. Oui. Mais alors que moi, je travaille énormément. Par exemple, là, je peux passer 2 heures, 3 heures et demie. Là, j'ai passé 3 heures et demie avant-hier sur 5 répliques. Donc, on travaille énormément dans la précision. Mais à partir du moment où les personnages sont sur le plateau, on me voit le jour de la première, après, je disparais. Je ne suis qu'un passage, le metteur en scène. Mais simple. Et donc, la vie... est là. Et pourquoi la vie est là? Parce que, comme nous, hein, on a beau avoir été très bien éduqués, on a notre liberté personnelle et on fait ce qu'on sent au moment où on le sent. Voilà. Mais simplement, c'est qu'on ne peut faire pas n'importe quoi parce qu'on a été bien éduqués. Donc on a, normalement, si on a bien travaillé, si les comédiens ont bien travaillé avec le metteur en scène, eh bien, ils sont prisonniers, entre guillemets, mais totalement libres. C'est encore... Le théâtre permet aussi de comprendre ce que c'est que le mystère de la liberté. Ça, c'est un autre sujet, mais c'est passionnant aussi.
Effectivement. Et puisque nous évoquions votre parcours et votre vie, une anecdote qui amusera et intéressera peut-être nos auditeurs, c'est qu'il semblerait que vous ayez révélé au grand public Danny Boone dès sa première apparition au Lucernaire. D'ailleurs, Danny Boone vous a rendu un vibrant hommage dans Le Figaro en 2019. Danny Boone, que je crois on connaît aujourd'hui comme un catholique, je crois, converti, mais qui à l'époque, évidemment, n'était pas spécialement connu pour un acteur chrétien.
C'est l'un des bonheurs et un des plaisirs du journalisme, c'est d'avoir pu révéler un certain nombre de gens qui ont débuté, mais il n'y a pas que lui, mais j'ai écumé les théâtres comme critique pendant plus de 30 ans. Hein.
Vous le faites encore?
Mais oui, je suis encore critique à Valeurs Actuelles, mais je vais un peu moins au théâtre parce que je n'ai qu'une chronique par semaine, donc je ne vais pas aller voir des spectacles sans en parler, donc j'en vois moins. Mais j'allais voir 6 spectacles par semaine.
Ah oui?
C'est énorme, donc j'en ai vu, puis je voyais toutes les formes, et même des formes avec lesquelles je suis en désaccord, c'est pas le problème. D'ailleurs, on est en général beaucoup moins sévère avec les formes avec lesquelles on est en désaccord qu'avec les formes avec lesquelles on est en accord, parce que là, on connaît bien, puis en général, c'est pas complètement réalisé, pas complètement réussi. Tandis que quand c'est des choses qui sont, je suis beaucoup plus gentil, entre guillemets, avec une comédie musicale qu'avec une pièce incarnée. Parce que l'incarnation n'est pas nécessairement réussie pleinement.
Et selon vous, les meilleurs critiques sont-ils les meilleurs metteurs en scène, voire les meilleurs acteurs?
Je ne sais pas, parce que c'est très rare les critiques qui ont fait du théâtre.
Hein. Ah oui.
Ça a des avantages et des inconvénients, c'est très rare. Moi, pour moi, le plus grand critique français, ça a été Pierre Marcabru, qui était le critique du Figaro, qui était un type absolument... enfin, moi, je trouve que ses critiques étaient absolument merveilleuses, mais il n'a jamais fait de théâtre. D'ailleurs, il ne fréquentait même pas les gens de théâtre, alors que moi, c'est tout le contraire. Mmh. Moi, je connais quasiment tout le monde.
Critique incarnée.
Voilà. et ça pose des problèmes, parce qu'il est évident que...
Conflit d'intérêts.
Oui, mais enfin, si on est honnête,
oui,
non.
Bien sûr.
C'est tout le problème. Les conflits d'intérêts, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est l'honnêteté. Et j'ai des comédiens, des amis qui se sont fâchés à mort avec moi parce que j'ai fait des mauvais papiers sur eux. Voilà, et j'ai jamais fait un papier de complaisance, j'ai jamais fait un papier pour me venger de quoi que ce soit. C'est un problème d'honnêteté, je sais que c'est un mot aujourd'hui qui est un peu... voilà, mais moi je suis chrétien, je ne vais pas me venger, ou je vais pas... voilà, j'ai toujours écrit ce que je pensais. Mais ce n'est pas parce que j'écris ce que je pense que c'est la vérité, ce n'est simplement que de l'honnêteté. Et honnêteté n'est pas vérité.
Alors, votre honnêteté apparaît au travers du titre de vos ouvrages, voilà. Et vous voulez en finir, Jean-Luc.
Mais c'est la collection qui s'appelle comme ça.
Hein. Oui, vous êtes effectivement un polémiste, d'ailleurs prolifique. Oui. Parce que vous voulez en finir, on l'a dit, avec le théâtre, avec la culture, oui. Avec le féminisme aussi. Oui.
Avec la langue de Shakespeare.
Bah avec le féminisme, ça m'a valu d'ailleurs que pendant un an, ma fille m'a fait la gueule pendant un an à cause de ce livre. D'accord. Ma fille est toute jeune, mais enfin, elle était folle de rage de lire ça. En disant, t'es pas une femme, comment tu peux écrire ça? Non, tu sais pas. Tu...
Ah, c'est très drôle. Oui, effectivement. Mais alors, peut-être encore plus surprenant, en effet, pour en finir avec la langue de Shakespeare, pourquoi au juste?
Bah parce que je suis la personne qui défend la langue française et que pour moi, un des gros, peut-être le plus gros problème d'aujourd'hui, c'est l'envahissement de la langue anglaise. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est cette langue qui est en train de bouffer, de nous bouffer, de bouffer tous les peuples, et notamment les peuples européens. En Allemagne, vous n'avez plus une seule personne qui ne parle pas anglais. Partout dans les pays du Nord, c'est pareil. Et ça devient... Et la langue, ça forme la pensée. Hein, c'est pas un truc neutre. Et l'obligation qui a été faite aujourd'hui, maintenant, vous ne pouvez plus prendre allemand ou espagnol comme première langue. Hein. L'anglais est devenu obligatoire comme première langue. Ça, c'est hyper dangereux. Hein. En plus, c'est stupide sur le plan... parce que si on apprend l'allemand, par exemple, mais c'est beaucoup plus facile d'apprendre l'anglais après. Bon, enfin, ça, c'est une parenthèse. Oui, mais je veux dire, donc, c'est absurde à tout point de vue. Mais surtout, c'est hyper dangereux. Et de la même façon qu'en 40... moi, je me serais battu contre l'Allemagne, contre la langue allemande, contre l'envahissement de langue. Eh bien, moi, aujourd'hui, je me bats contre l'envahissement de cette langue, avec ce qu'elle véhicule de pensée, voilà, et l'américanisme qui est derrière, les trucs, ces modes-là, enfin, tout ce qui est en train de détruire profondément notre civilisation, et d'une manière beaucoup plus grave que bien des accusations sur d'autres... Oui. C'est plus grave que les problèmes en Russie, par exemple. On devrait avoir plus peur de l'anglais qui nous envahit que de l'envahissement des Russes en France, par exemple. Je plaisante, bien sûr, bon. Je plaisante pas complètement, d'ailleurs. Mais...
C'est une position tout à fait, en effet, audible. Et alors, s'agissant précisément de Shakespeare, vous mettez en scène, je crois... Shakespeare au Théâtre du Nord-Ouest.
Oui, j'ai mis en scène plusieurs pièces.
Pour autant, je ne crois pas que vous soyez très shakespearien. Je crois que vous donneriez tout Shakespeare pour Molière, Corneille ou Racine.
Je donne tout Shakespeare pour Racine, bien sûr. Voilà. Parce que, voilà. Mais le théâtre de Shakespeare...
My Kingdom for Racine.
Voilà. Voilà, My Kingdom for Racine. Mais le problème de Shakespeare, est que c'est une chance qu'il a. Une grande chance. C'est que il peut être traduit. Il peut être adapté. En Angleterre, je ne parle même pas des États-Unis, hein, en disant haussant les épaules, plus personne ne le comprend.
Ah oui.
L'anglais a tellement évolué que personne ne le comprend. Alors que nous, on peut traduire, adapter Shakespeare. Alors le problème ensuite, c'est le problème de ces traductions, de ces adaptations.
Merci l'Académie française d'avoir figé le français.
Mais heureusement, merci l'Académie française. Hein. Merci.
Donc le vers shakespearien, je crois... difficilement traduisible en réalité. Bah, c'est une scansion qui n'a pas d'équivalent en français.
C'est un des. Voilà, je sais qu'il faut arrêter parce que notre émission a besoin.
Bon,
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Oui, pour revenir à la traduction, le problème aujourd'hui, c'est que c'est terrible, c'est que les gens qui montent et qui adaptent les pièces de Shakespeare, ils courent après l'anglais.
Ah oui.
Ils essaient de traduire l'anglais, mais chaque langue a son mystère. Il faut adapter. Bon, c'est ce que j'ai fait en général quand j'ai monté des pièces de Shakespeare. J'ai fait l'adaptation, ou alors j'utilise des adaptations. Par exemple, pour Le Roi Lear, quand je l'avais monté, j'avais utilisé l'adaptation que mon père avait faite il y a quelques années, avant de mourir.
D'accord. Ah oui, effectivement.
Et vous tranchez dedans, parce qu'on était voir, par exemple, Henri VIII, c'est une pièce qui apparemment est interminable, et vous avez quand même dû faire des choix.
C'est pas moi qui l'ai monté, hein, Henri VIII. Ah bah non, heureusement, c'est très... Je ne devrais pas dire ça.
Sans vouloir dénoncer Claude Séraphin.
Oui, on voit en tout cas la franchise du chrétien qui n'hésite pas.
Je vous assure que si j'étais critique au Théâtre du Nord-Ouest, il y a les meilleurs spectacles de Paris et les plus mauvais. Alors, donc,
oui, parce
là-dessus...
que c'est une des grandes qualités du Théâtre du Nord-Ouest, c'est qu'il ose prendre des risques et admettre entre ses murs des productions que vous-même ne cautionnez pas
c'est un théâtre d'art et d'essai. Mmh. Donc il y a des essais qui sont complètement ratés, des choses... Je sors quelquefois de spectacles au Théâtre du Nord-Ouest, mais atterré. Complètement atterré. Donc ça, c'est... Mais c'est très bien, c'est sain, c'est bien. Et puis c'est important aussi de prendre des choses... C'est tellement difficile, vous savez, pour les créateurs. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ça coûte cher de monter un spectacle. Au Théâtre du Nord-Est, on peut très bien monter un spectacle pour rien, quoi.
Oui.
Et donc, on essaye, on se plante, on cherche. Et puis, c'est très bien, c'est comme ça qu'on progresse. Moi, le nombre de spectacles que j'ai vus montés par des metteurs en scène au Nord-Ouest qui étaient hyper mauvais, et puis finalement, au bout de 3-4 ans, ils montent des très bons spectacles. Ben voilà, s'ils n'avaient pas pu essayer, ils n'auraient pas fini par réussir.
Mais alors justement, venons-en peut-être au répertoire du Théâtre du Nord-Ouest, puisque Lucien Rabouille et moi-même avons eu la joie d'assister à un certain nombre de représentations, et notamment à ce cycle Monterland que vous avez...
Oui.
Alors, je crois que vous n'avez pas mis en scène l'ensemble de ces pièces, sauf erreur, du moins à l'occasion de cette...
J'ai pas mis en scène toutes les pièces de Monterland, mais elles ont toutes été montées au Théâtre du Nord-Ouest dans le cycle Monterland, toutes sans exception.
Et alors, d'abord, Monterland est un auteur relativement peu joué aujourd'hui.
Oui, c'est un scandale qu'il soit pas joué, parce que pour moi, c'est le plus grand auteur du XXe siècle.
Ah, le plus grand auteur du XXe siècle.
Je le mets au-dessus de Claudel.
Et alors, justement, je crois, Lucien Rabou, que vous avez quelques questions à poser à notre invité à ce sujet.
En effet, on regardait avec intérêt cette trilogie chrétienne de Monterland, et on se demande même si elle nous est accessible. On a ce vocabulaire légèrement sirupeux et puritain. On a également ces questionnements que se posent les personnages, qui aujourd'hui paraîtraient, la pure normalité pour le contemporain. Le théâtre devient presque, chez Monterland, une sorte de laboratoire spirituel. Et pour en revenir à cette dichotomie, on sait que Monterland n'était pas un auteur chrétien. Il n'était pas chrétien. La trilogie chrétienne sur laquelle on pourra s'arrêter de pièce en pièce, s'agit-il d'un théâtre véritablement chrétien ou d'un théâtre quelque part tragique qui dialogue avec le christianisme mais sans jamais vraiment s'y fondre et s'y soumettre?
Si on reprend ce que je disais tout à l'heure de ce qu'est le théâtre chrétien, donc le théâtre chrétien c'est le théâtre de la globalité, c'est le théâtre du péché, c'est le théâtre de là. Le théâtre de Monterland, il est parfaitement et totalement et absolument chrétien.
Et cependant, les grands personnages du théâtre de Monterland, souvent, ne sont pas chrétiens.
Bien sûr.
Ils sont hérétiques. Je joue
en ce moment Alvaro.
Voilà.
Alvaro, je suis en désaccord absolu avec mon personnage.
Oui. Alvaro, on y voit...
Tout être humain est un obstacle pour qui tend à Dieu.
C'est fou, oui.
C'est ce que mon personnage dit. Moi qui suis catholique, quand je dis ça, je frémis. Comment peut-on nier l'humanité et croire, pour moi c'est l'hérésie pure, quoi.
Alvaro est un stoïcien qui n'a absolument rien de chrétien.
Et justement, comment le christianisme peut-il servir de support, au moins lexical, à une espèce d'égotisme stoïcien? Et on retrouve ça plusieurs fois chez Monterland. Alvaro parle du Christ, parle du renoncement, parle etc., mais il parle d'autre chose que de la foi, finalement. Il parle de sa grandeur personnelle, il parle du moi, il parle de l'ego. Et c'est assez troublant, quand même, chez Monterland, je trouve.
C'est-à-dire qu'il projette ses propres fantasmes sur ses personnages. Et ce qui est drôle, c'est qu'il lit du verbe « lité », il lit le christianisme d'une certaine façon. Parce que pour lui, le chrétien, c'est Alvaro, c'est ça qui est amusant. Alors que Alvaro est un hérétique, mais vraiment au sens fort du terme, c'est un cathare d'une certaine façon.
C'est la seule chose que Monterland retient du christianisme, on a l'impression.
Oui, bien sûr.
L'ascèse, en quelque sorte.
Oui, mais...
Une ascèse sirupeuse, paradoxale.
Mais il laisse la liberté d'exister aux autres et des vrais chrétiens. Par exemple, Bernal est un vrai chrétien. Dans le Port-Royal, Père Fix est un vrai chrétien. Et surtout monter comme je l'ai fait moi, pas monter la Comédie Française où il le ridiculisait. Mais moi, il n'est pas ridicule. Et il porte une vraie parole chrétienne d'un évêque qui sait ce que c'est que le péché et qui se méfie de cette espèce de terrorisme de la pureté qui est hyper dangereuse.
En même temps, Monterland renvoie Port-Royal et toute la spiritualité de Port-Royal à la caricature du christianisme, c'est-à-dire au jansénisme, ce que ne prétendait pas être Port-Royal, justement.
Oui. D'accord, mais oui, enfin, bon, ça, on peut en discuter.
On pourra en discuter. Oui.
Mais quand même, ce que dit certaines des sœurs de Port-Royal, c'est quand même d'une intelligence, d'une profondeur, d'une subtilité rare. Mais simplement, c'est que ça s'oppose à une parole qui est vraiment catholique, qui est celle de Père Fix.
Peut-être à l'inverse, dans La ville dont le prince est un enfant.
C'est terrible.
Pièce... qu'on pourrait qualifier de sulfureuse aujourd'hui, et difficile peut-être à représenter au vu de son thème.
Il avait peur, il ne voulait pas le représenter, Monterland lui-même.
Et alors, on pourrait dire que l'abbé de Prats, là encore, n'est pas chrétien, mais d'une façon inverse au maître de Santiago, dans la mesure où lui fétichise la chair, justement, où lui croit que la seule voie, justement, pour accéder à Dieu, c'est les autres, en l'occurrence l'objet de sa passion, la créature, et non pas un obstacle.
Et il croit dans l'amour terrestre avec la ferveur d'un adolescent.
Exactement.
Et d'un païen.
Bien sûr, mais il s'aveugle aussi, je veux dire.
Oui,
il s'aveugle.
Là où son supérieur est, lui, un catholique.
Moi, j'ai beaucoup de plaisir à jouer le rôle du supérieur, parce que pour une fois, je joue un rôle avec lequel je suis en accord théologique et chrétien, c'est le seul vrai chrétien de la pièce.
Lui, il croit dans le surnaturel authentique.
Bien sûr.
Seule la foi sauve.
Exactement.
Oui.
Il croit en Dieu, tout simplement.
Et d'ailleurs, cette pièce est terrible d'actualité, puisque au-delà, effectivement, des scandales sexuels, etc., ce que fait dire à Monterland l'abbé de Prats, l'amour des visages, justement, a un peu contaminé toutes les relations entre individus aujourd'hui. On peine à aimer quelqu'un autrement que parce qu'on cherche de singulier en lui, parce qu'on essaye d'imaginer d'original en lui. Alors que ce que nous dit le supérieur, c'est qu'on doit aimer d'abord la créature.
Mais bien sûr, la créature.
Et la créature, c'est pas le fétiche qu'on en fait.
Exactement, oui, voilà.
Absolument. Ce dialogue de fin est un des grands moments de la littérature française du XXe.
Tout à fait d'accord.
Un autre amour. Oui.
Tout à fait, un autre amour, monsieur de Prats.
En même temps, les deux personnages, et c'est ce que vous disiez sur la chance que Monterland et que le théâtre, en général, donne à ces personnages, c'est que les deux personnages sont un peu en nous aussi. C'est-à-dire que.
Ils sont vrais, quoi.
Oui, les deux sont vrais, voilà. Et c'est vrai que. Alors, l'amour des visages, on voit quand même que le Bé de Prats n'est pas monstrueux. Il est aussi en retenue. Et la résistance qu'il apporte justement à sa tentation le grandit quelque part aussi. Mais c'est vrai qu'entre l'amour d'un surnaturel authentique et finalement l'amour d'une personne dans ce qu'elle peut avoir d'original, c'est aussi un dialogue intérieur finalement.
Bien sûr, tout à fait. Ouais. Alors le problème de fond dans la pièce, c'est quand même l'histoire d'un prêtre qui a perdu la foi aussi. C'est-à-dire que. Et ça questionne l'Église aujourd'hui, ça questionne les gens qui se sont engagés en toute sincérité à 20 ans, 25 ans pour faire cette mission de devenir prêtre ou moine, et puis qui se retrouvent dans la déréliction. Et qu'est-ce qui reste? Il reste un corps auquel ils ont même plus perdu. Donc ça donne cette espèce de d'amour des corps qui
est la trilogie qui chrétienne, c'est une histoire du christianisme finalement. Le maître Bien de sûr. Santiago est entouré de gens qui respirent la chrétienté à plein poumon, ils vivent dans la chrétienté. Et déjà à Port-Royal, on voit que le christianisme se referme avant de devenir plus qu'un un cornichon qui mastère dans un bocal dans la ville dont prend son enfant. Ces internats catholiques, c'est Bernanos qui disait, les prêtres font pousser des cornichons dans des bocaux, et c'était un peu l'ambiance justement de ces internats du 19e, 20e siècle. Oui. C'est vrai qu'il y a une lucidité sur ce que devient l'Église et le christianisme en 5 siècles chez Montaigne.
Oui, tout à fait.
C'est terrifiante.
Mais le problème aussi, c'est qu'il y a une expérience personnelle de Monterland dans la ville dont le prince est un enfant, parce qu'il raconte aussi son histoire.
À Sainte-Croix, hein. Oui.
Voilà, donc quand il était dans l'internat, et ce qui s'est passé. Donc, et puis on sait, je veux dire que c'est pas un secret pour personne que de dire que Monterland était homosexuel. Hein.
Et oui,
donc, c'est pas un scoop.
Bien sûr. Mais alors, il y a donc eu ce cycle Monterland, et puis, dorénavant, vous en avez dit un mot, un cycle Musset.
Oui.
Qui est actuellement au programme, à l'affiche. Pourquoi Musset, au juste ?
Bah, je vous dis, pourquoi Musset, mais pas plus que pourquoi Molière, ou pas plus que pourquoi Monterland, parce que c'est des auteurs qui, dès l'écriture, permettent l'incarnation. Voilà, d'accord. Et quand vous voyez, là je suis sur Lorenzaccio, je viens de monter les Caprices de Marianne, c'est abyssal, la connaissance de Musset, des êtres humains, c'est une pièce absolument formidable, quoi, mais de vérité, de pleine vérité, à condition qu'on ne se laisse pas avoir par la langue poétique de Musset, en se disant c'est du beau, voilà. Et quelquefois, moi je travaille avec des comédiens qui ont beaucoup de talent, mais le talent des comédiens, c'est hyper dangereux quelquefois, parce qu'ils parlent tellement juste. Alors on va dire le truc, attendez, tu dis quoi, qu'est-ce que tu racontes? Alors on va commencer à creuser, qu'est-ce qui se dit là dans cette phrase qui a l'air poétique, quel est le sens? Et là, c'est un boulot considérable, quoi, avec des images, il ne faut pas se laisser avoir par la beauté de la langue, quoi. C'est pareil pour Racine, c'est pareil pour Corneille, voilà, ça c'est le grand piège, quoi, le grand piège c'est ça. Et Musset, et Lorenzaccio particulièrement, a été tué à cause de ça, quoi. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si très souvent c'est joué dans des grandes salles.
Est-ce que vous voulez
Alors
dire
que
c'est
là, que... on joue dans la petite salle, qui est sur le plan économique est absurde, parce que je joue dans une salle de 60 places.
Il y a plus de comédiens que de spectateurs.
Quasiment. Alors que je suis directeur de ce théâtre, je pourrais la jouer dans la grande salle. Mais donc, pour dire que l'économie ne rentre pas en jeu. Mais en revanche, le fait de voir Lorenzaccio à un mètre de soi, là c'est les spectateurs qui viennent, ils en ont plein la vue, quoi. Alors que dans une salle, une grande salle, c'est encore du théâtre projeté.
La petite salle, il y a une expérience corporelle.
Exactement.
Hein. On parlait de la ville dont passe un enfant. La performance de votre acteur, Jonathan Le Guillou, concernant l'abbé de Prats, on est prêt.
Tout prêt. Il joue aussi, c'est lui qui joue aussi les Caprices de Marianne, il joue aussi Octave. C'est un très très bon comédien.
Et il jouait Henri VIII.
Il sauve la pièce. Moi, je ne l'ai pas vu avec lui, parce qu'il a repris le rôle. Je ne l'ai pas vu avec lui. Il me tanne d'ailleurs pour que je revienne, mais je l'ai tapé une fois, ça m'a suffi.
Mais alors, à propos de cette proximité qu'il y a dans cette petite salle entre le comédien et son public, je voudrais lire un texte, là encore un extrait de Pour un théâtre chrétien, à propos de ce que vous appelez... la communion qui se produit dans le théâtre chrétien. Au théâtre, il faut une communion. Parfois, et c'est terrible, il suffit d'un seul, sceptique, un seul paresseux, pour que le miracle n'ait pas lieu. Si le comédien se sent jugé, regardé, pas aimé, il ne s'abandonnera pas à son personnage. Si le spectateur est hostile, indifférent, s'il est ailleurs, il refusera à l'acteur le droit de donner vie. Pire, il entraînera dans cette spirale de mort les autres spectateurs. Vous êtes aussi exigeant avec votre public qu'avec vos comédiens.
Bien sûr, c'est toute la différence entre le théâtre et le cinéma. Au cinéma, le spectateur est consommateur. Au théâtre, il est créateur. La présence c'est un peu comme dans la physique quantique, c'est-à-dire que celui qui regarde transforme la chose qui est regardée. Bon, c'est ça le théâtre. C'est pour ça que c'est magique. Et il suffit qu'il y ait... Vous pouvez être le meilleur comédien du monde si vous avez au premier rang un spectateur qui est en train de manger un bonbon et de machin.
c'est terminé. Un téléphone qui sonne.
Moi, ça m'arrive dans la ville dans le Prince de l'Enfant. J'ai fait 2-3 expériences. En plus, comme j'arrive à la fin, deux-trois fois, j'ai répété toute la journée dans un froid considérable, parce que la salle de répétition, on avait un problème de chauffage, mais peu importe. Je me regardais jouer. Mm-hmm. J'étais double. Et il suffit d'un spectateur qui soit pas là, qui je sais pas, même qui parle, qui n'importe quoi, qui bouge trop, qui touche trop, qui n'importe, et c'est terminé. On est c'est très fragile, l'hypostase.
Oui.
D'être pleinement soi-même tout en étant pleinement le personnage, c'est très fragile. Donc on se dédouble très vite.
Mmh.
Et les comédiens qui ont fait cette expérience là, cette expérience d'unifier, de vivre ça, ils savent à quel point c'est les moments les plus extraordinaires de ce métier de création, quoi. Mmh. C'est absolument extraordinaire. Alors que jouer en distance, alors là, peut-être que Brecht aurait été content de me voir jouer le père supérieur m'en regardant jouer. Là, je suis en distance. Mais c'est pas ça.
J'imagine, je déduis de ce que vous dites que le théâtre filmé vous fait horreur.
Oui. C'est drôle parce que j'ai fait pendant 2 ans sur la chaîne de Vincent Bolloré, qui m'avait appelé pour ça. On a filmé les pièces du Nord-Ouest. On les avait jouées dans un cinéma qu'il avait transformé en théâtre. Et c'était drôle parce que Vincent, il m'avait téléphoné et j'avais commencé par refuser. Mmh. Et puis ensuite, il a un petit peu insisté. Et puis ça a été c'est comme les comédiens travaillaient dans des conditions tellement difficiles que là, c'était l'occasion de gagner de l'argent, de payer tout le monde. Donc finalement, j'ai accepté. Mais c'est pas pareil, quoi. C'est pas la même chose. Le théâtre filmé, c'est pas la même chose. Voilà. C'est fixer un truc qui n'est pas... C'est le ici et maintenant qui est passionnant au théâtre, quoi.
Il n'y a pas de cinéma incarné, selon vous. C'est incompatible avec cette forme d'art. Lucien Abou, il y a horreur du cinéma.
En tant qu'art, pas en tant que support.
Oui, c'est-à-dire que c'est un produit, c'est tout. C'est un produit qui crée de l'émotion, hein, qui peut créer de la beauté, qui peut créer de l'émotion. C'est un produit. Voilà, c'est pas...
Ça fait plaisir.
Tout. Ça peut ne pas être désagréable. Moi, je suis comme vous, j'aime pas trop le cinéma. Je m'y ennuie beaucoup.
Votre art n'a pas toujours été compris. Et effectivement, pour un théâtre chrétien, on revient sur les critiques qui ont été faites. Tertullien, on en a parlé, on l'avait évoqué de manière un peu furtive, parle d'une assemblée particulière d'impudicité. Oui. Puis il y a Saint-Augustin, et puis il y a Bossuet. Quelle mère, je ne dis pas chrétienne, mais tant soit peu honnête, n'aimerait pas mieux voir sa fille dans le tombeau que sur le théâtre. Alors d'où vient cette condamnation?
La condamnation, elle vient de... Je crois que c'est dans le théâtre, dans ce livre-là, sur le théâtre chrétien. Je parle de l'archevêque qui avait condamné Molière, je ne sais plus comment il s'appelle, mais pour de très bonnes raisons aussi. Quand il explique ça, les raisons, elles sont très simples. Qu'est-ce que c'est que prendre le corps de quelqu'un? C'est comme un succube, c'est quand même sur le plan, c'est scandaleux, il y a quelque chose de... c'est quand même voler quelqu'un. Donc il y a des raisons pour lesquelles on peut... Voilà. Et puis ensuite, le théâtre, alors moi, dans les livres, je pense que c'est... Je
sais pas si
c'est
dans
celui-là où je dis, parce que j'en ai écrit plusieurs sur ce sujet, où je dis, mais ensuite, il y a le travail du Saint-Esprit, qui fait que, même à l'intérieur de l'Église, qui fait que l'Église s'est mise à comprendre... comment le théâtre pouvait, au contraire, permettre de comprendre l'essence même du christianisme. Et l'essence même du christianisme, c'est l'incarnation du Christ. Hein, c'est bon.
D'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est que, c'est peu connu, Jean-Paul II a été comédien, un comédien assez... Il a poussé cette vocation assez loin dans sa jeunesse.
Oui, tout à fait, oui. Mais ce qui est drôle, c'est que les pièces de Jean-Paul II, elles sont distanciées, c'est ça qui est amusant. Elles ne sont pas incarnées, c'est très marrant. La pièce de l'Orfèvre, je crois que ça s'appelle. C'est une pièce qui est très intéressante, mais pas du tout incarnée. Ah oui. C'est très rigolo.
Jean-Paul II était donc brechtien.
Jean-Paul II était brechtien, oui. Nourri par ce théâtre aussi de l'Est, qui n'a pas les traditions françaises d'incarnation. Hein.
Le puritanisme a gardé une certaine caricature du christianisme, qu'on pourrait appeler puritaine, a gardé une hostilité pour le théâtre. Et par exemple, que Shakespeare jouait, je crois, dans les faubourgs de Londres, puisque la ville elle-même de Londres était tenue par l'assemblée puritaine, justement.
Ben oui.
Oui. Mais c'est une critique. Alors oui, vous dites qu'on s'incarne dans quelqu'un d'autre et donc il y a comme un procédé de doublement qui peut finalement apparaître comme le double, c'est-à-dire le diable finalement.
Bien sûr, c'est exactement ça, le diable. Et donc on peut comprendre. Et puis alors ensuite.
Mais vous y répondez, je crois, de manière théologique, de manière argumentée. Ce serait intéressant que vous puissiez.
C'est-à-dire qu'après, il se passe une chose, c'est que l'Église a compris que le théâtre était exemplaire. Parce que quand je suis comédien...
Récit exemplaire.
En ce sens que quand je suis comédien, je réalise pleinement l'hypostase. C'est une petite hypostase, c'est pas l'hypostase du Christ, mais c'est quand même une hypostase. C'est-à-dire que je suis pleinement moi-même et pleinement le personnage. Comme le Christ est pleinement Dieu et pleinement homme. C'est-à-dire que ce que ne comprennent pas ou n'acceptent pas, comme dit saint Paul, les juifs, les athées ou les bons. Eh bien, nous, saint Paul parle de folie, de l'incarnation, en disant que c'est une folie, personne ne peut comprendre ce que c'est. Eh bien, nous, au théâtre, on le fait. On le vit. C'est quand même extraordinaire. Pleinement Dieu, pleinement homme, pleinement le personnage, et en même temps, pas 50%, pas 50%, pas, ouais, comme ont essayé après, avec toutes les hérésies, vous savez, Nestorius, Arius, donc, qui disaient non, l'homme il Dieu. Est un peu Dieu, non, il est un peu trop homme, non, il n'est pas... Non, pleinement Dieu, pleinement homme, c'est Chalcédoine, hein, c'est les conciles de Chalcédoine, c'est exactement ça, pleinement, voilà. Eh bien nous, c'est ce qu'on fait. Ça permet de comprendre beaucoup et de montrer que le christianisme n'est pas folie. Que c'est une chose réelle, que c'est pas une dinguerie. Voilà.
Le christianisme apporte aussi quelque chose de nouveau, je crois, dans l'histoire de l'art théâtral. Et dans le livre « Pour en finir avec le théâtre », il est question, je crois, d'un mot qui n'est pas toujours compris, qui est celui de la catharsis.
Oui.
Alors peut-être que vous pourriez l'expliquer à nos auditeurs, puisque je crois qu'il est sujet de beaucoup d'équivoques.
Au fond, personne ne le comprend. On parle de purgation.
Oui, passion, des fois, on a l'impression que c'est pour se repaître comme ça de passion mauvaise sur scène, alors qu'en fait, c'est pas tout à fait ça. Et d'ailleurs, vous distinguez ce théâtre cathartique, d'origine aristotélicienne, du théâtre chrétien, il me semble. Alors ça appelle peut-être quelques développements.
Non, c'est-à-dire que, grâce au classique français, hein, puisque c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, mais grâce au classique français, on est passé d'une catharsis sociale, politique, religieuse, à une catharsis individuelle. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est qu'une catharsis, au sens où Aristote l'entendait, c'est simplement que par l'autre, la tension que crée le personnage qui est l'autre, eh bien, nous renvoie à nous-mêmes. C'est ça. Au lieu que ça renvoie à la société, la purgation, la catharsis de la société, comme une société politique, eh bien, là, on est passé de ça à l'individu. On est en face d'un individu qu'on regarde, voilà. Et donc, le fait de regarder l'individu fait que, on se purge, entre guillemets, pour reprendre le mot de purgation, on se purge, de nos folies, parce qu'on voit la folie qui est en face. Donc, on voit un meurtrier, peut-être qu'en voyant un meurtrier, on n'aura pas envie de tuer quelqu'un. Quand on va voir un menteur, on n'a pas envie de monter. Là, je viens de monter le menteur de Corneille. En voyant le menteur de Corneille, on voit bien qu'à quel point le mensonge amène à des folies, à des dingueries. Donc, d'une certaine façon, c'est une purgation que de voir individuellement comment le menteur... voilà, et c'est ça. Alors qu'avant, c'était sur la société, sur
le corps social.
Le corps social. C'est le grand progrès des classiques français, quoi.
D'accord.
Et alors, à propos des classiques français, nous avons bien expliqué en début d'émission la différence qu'il y a entre le théâtre chrétien tel que vous l'entendez et ce qu'on pourrait appeler le répertoire chrétien. Et pourtant, en quoi les grands auteurs chrétiens du répertoire théâtral français, correspondent ou ne correspondent pas à votre idée du théâtre chrétien. Citons par exemple Claudel.
Voilà.
Puisqu'évidemment, c'est l'archétype.
Bien sûr. Parce que Claudel, comme Molière, d'une certaine façon aussi, a écrit des pièces incarnées et des pièces qui ne le sont pas.
Quelles sont les pièces non incarnées de Claudel?
Par exemple, Le Soulier de Satin.
C'est une pièce non incarnée.
C'est une pièce où il appuie sur un bouton et ça part.
Oui, oui.
Il fait de la poésie. C'est pas... Voilà. Alors que le partage de midi, c'est incarné, l'échange, c'est incarné, la jeune fille Violaine, c'est incarné. Voilà, c'est complètement...
L'annonce
faite à Marie, c'est incarné. La trilogie, c'est incarné. Voilà, alors que quand, voilà, quand c'est le soulier de satin...
Cela dit, le soulier de satin, je crois, à l'origine, n'était pas fait pour être joué, mais plutôt pour être lu, en réalité. Oui. C'est une sorte de roman.
Il fait de la poésie, voilà, c'est la poésie. Alors ça excite beaucoup les metteurs en scène de gauche qui sont emparés de Claudel sur la poétique.
Ah oui, oula.
Et on montre Claudel en enlevant la spiritualité, ce qui est absolument extraordinaire de sottisme. Enfin, ça, c'est une parenthèse.
D'où la superproduction récemment réalisée par la Comédie française.
Bien entendu, bien sûr.
Transcrite sous forme de podcast sur France Culture.
C'est exactement ça, voilà. C'est
même filmé pour la télévision.
De Claudel,
voilà,
oui.
Voilà, c'est exactement ça.
Oh mon Dieu.
Voilà. Donc, j'espère qu'avoir répondu à votre question.
Bien sûr, mais quid de Peggy, par exemple? Est-ce qu'il y a un théâtre non incarné de Peggy?
C'est-à-dire que Peggy n'est...
On voit pas toujours les personnages, quand même. On voit beaucoup le verbe, on voit beaucoup la
oui, mais parce que, Peggy n'a pas écrit de pièce de théâtre. Hein. La seule pièce de théâtre, entre guillemets, qu'il a écrit, c'est le mystère de la charité de Jeanne d'Arc.
Oui.
Et encore, parce que je l'ai adapté, c'est-à-dire que j'ai pris à l'intérieur de voilà, et j'ai fait... Vous l'avez vu, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais...
Alors, malheureusement, nous n'avons pas...
J'en ai fait, si vous voulez, j'ai opposé les trois théologies avec les trois personnages. Je n'ai pas changé un mot, bien entendu, mais voilà. Donc là, c'est totalement incarné, Jeanne est totalement incarnée, Oviette est totalement incarnée, Madame Gervais est totalement incarnée. C'est trois théologies, trois sensibilités
qui
s'affrontent. Oui, mais c'est très incarné, c'est-à-dire que ce n'est pas des discours pour discours, parce que...
On a cette impression, le lisant.
Parce que les
même.
Personnages souffrent. Ouais. Les personnages, voilà, c'est une œuvre absolument magnifique. La langue de Peggy qui est sublime, elle est totalement transcendée par la chair des comédiens.
Il y a un auteur de théâtre, alors qui n'est pas forcément connu pour son œuvre théâtrale, qui est un chrétien ambigu justement, et que peut-être on aura le plaisir de voir, ou s'il n'a pas déjà été joué, puisque malheureusement nous n'avons pas vu effectivement toute l'implantation, ce serait Julien Green justement.
Ah oui, bon, il a écrit une ou deux bonnes pièces.
Sud,
c'est plutôt une bonne pièce, Sud. Et puis il en a écrit une autre qui est pas mal. À un moment donné, je voulais le mettre en scène, et puis je sais pas, il y avait son héritier m'a gonflé.
Ah oui.
Je sais plus qui c'était, enfin on s'était un peu engueulé, je sais pas, donc...
C'est bien dommage. Oui. C'est quelque chose qui n'a pas été joué
Mais moi, j'aime beaucoup. Mais c'est surtout un très grand romancier, Julien Green.
Les thèmes du roman apparaissent dans ce film de manière éclatante. Oui, c'est presque un pansum, pour le coup.
Bien sûr.
Vous pourriez resserrer Julien Green complètement
et
le mettre sur scène.
Vous parlez de Julien Green, mais on peut parler de François Mauriac.
Alors oui, vous voulez parler de François Mauriac.
Il y a des pièces de François Mauriac qui pourraient tout à fait être mises en scène.
On ne les connaît pas. Je pense qu'il y a peu même des lecteurs de François Mauriac qui seraient capables de vous donner même le titre d'une pièce.
Je le sais, mais moi, je n'ai pas
le
mémoire.
Le Feu sur la Terre, je crois, non?
Feu sur la Terre. Feu sur la Terre. Oui. C'est pas une Feu sur la Terre, c'est pas aussi une pièce de Jacques Deval, non?
Je ne saurais pas vous répondre sur ce.
Feu sur la Terre, non. Et puis sa pièce la plus connue. Or, j'ai son nom sur le bout de la lèvre, mais je le retrouverai peut-être tout à l'heure avec mon esprit d'escalier. J'ai pas de mémoire, paradoxalement, pour un comédien, c'est fascinant, mais je n'ai aucune mémoire.
Il y a un Jean-Luc Génère dont on a peu parlé, et ce sera peut-être le dernier d'ailleurs. De notre émission.
J'espère que je ne serai pas mort.
Jean-Luc Génère, acteur, metteur en scène, directeur de théâtre. Puis il y a Jean-Luc Génère, auteur, il me semble.
Le Jean-Luc Génère polémiste.
Et le Jean-Luc Génère
il y a surtout le Jean-Luc Génère, en effet, auteur de théâtre d'abord, mais aussi romancier.
Oui, oui.
Avez-vous écrit du théâtre dès le moment où vous êtes destiné au théâtre en tant qu'acteur et en tant que metteur en scène?
Assez tôt, j'ai écrit des pièces de théâtre, assez tôt. Mais au départ, quand j'étais jeune, je voulais être romancier, donc j'ai écrit des romans quand j'avais 14 ans, 15 ans.
Ah oui.
Qui sont tous plus mauvais les uns que les autres, bien entendu. Mais voilà. Et puis là, je viens d'en écrire, il y en a deux qui sont publiés, et puis là, je viens de remettre, c'est un scoop, entre guillemets, je viens de remettre mon manuscrit à mon éditeur, Atland, d'un roman que je viens d'écrire sur Clovis et l'arianisme. Donc,
ah oui,
qui va sortir normalement en avril.
Ah, c'est un thème assez incroyable, parce que c'est là où se joue l'histoire de l'Église.
Ah bah, c'est bien pour ça que ça m'a intéressé et passionné, oui. Ça s'appelle Clovis et l'arianisme. Oui.
Je crois qu'une grande partie, ce n'est la quasi-totalité de votre œuvre théâtrale, a été éditée par, alors est-ce par Pierre Tecky ou par Atland ?
Oui, Tecky, une bonne partie, enfin une toute petite partie, parce que je crois que j'ai écrit, je le sais, j'ai écrit 80 pièces à peu près.
Mais tout n'a sans doute pas été joué ou édité.
Non, mais beaucoup ont été joués, beaucoup. Il y a plein de pièces qui ont été jouées qui n'ont pas été éditées, et puis d'autres, parce que pour les éditeurs, on ne vend pas, quoi. Mm. Autant... même pour les romans, c'est compliqué. Mon éditeur, il est adorable d'avoir publié mes romans, mais il perd de l'argent avec les romans, alors que les pamphlets, ça se vend plus facilement.
Ça part bien.
C'est plus rigolo, quoi.
Et votre théâtre semble toujours aux prises avec, on pourrait dire, l'actualité. En tout cas, avec des thèmes sociaux. Je pense par exemple à votre œuvre sur la confession, bien sûr, qui est d'actualité, puisqu'elle est actuellement à l'affiche du Théâtre du Nord-Ouest et qui traite, je crois, précisément, nous parlions de la ville dont le prince est enfant, mais dans un autre registre, des abus sexuels.
Des abus sexuels, enfin, entre autres.
Oui.
Donc, surtout, c'est une pièce sur le secret de la confession. Mm. Je voulais pas tant parler des abus sexuels que du secret de la confession, qui est pour moi un sujet absolument fondamental, quoi, parce qu'aujourd'hui on voudrait qui est remis en cause, qui est extrêmement grave et extrêmement dangereux. Mais dans la pièce, comme toutes les pièces que j'ai écrites, je ne tranche pas.
C'est-à-dire
je montre les choses, les oppositions, mais tout le monde a raison. Mm. Mais moi j'ai des convictions. Et je suis totalement pour le secret de la confession.
Et alors, vous vous êtes exercé à cette manière de mettre en scène, disons, une vérité qui est toujours au milieu du gué entre des positions contradictoires dans une œuvre qui avait pour thème le négationnisme.
Oui, le négationnisme.
Qui a été joué, je crois, au milieu des années 2000.
Oui, ça a été joué.
Et la loi Guesso, en réalité.
Oui, c'est pour attaquer la loi Guesso, entre autres. Qui est une bêtise absolue. La loi Guesso est une bêtise absolue.
Mais
c'est extrêmement grave. Quoi. À partir du moment, pour moi, ça a été même une source ça nourrit l'antisémitisme, la loi Guesso.
Et le négationnisme.
Et le négationnisme. C'est une absurdité totale. On ne veut pas qu'il y ait des gens qui disent des conneries. Quoi.
Ouais.
Et pour ça que... En plus, il y avait deux parties. La deuxième partie était très intéressante parce que le négationnisme se retrouvait confronté à quelqu'un qui avait été en camp de concentration. Et là, c'est un peu plus compliqué que de théoriser sur les trucs, alors que là, quand on a vu une victime, quelqu'un qui l'a vécu dans sa chair, et ça, voilà.
Et vous, et les gens encore jouer cette pièce
Il y a plein de pièces comme ça qu'on a jouées et puis qui restent...
Avec des scolaires, par exemple, ce serait une manière intelligente de traiter le sujet.
Oui, je sais bien, mais... Bien, non, mais les pièces... Voilà, c'est les pièces, elles vivent, et puis ensuite, on passe à autre chose. J'en écrirai d'autres, j'espère, tant que je ne suis pas mort.
Et alors, vous écrivez donc des œuvres théâtrales, mais aussi des romans. Alors, du moins, nous avons étudié le territoire, mais est-ce votre unique roman publié ?
Non, il y a un autre roman qui a été publié, cette fois-ci chez Atland. Là, le territoire, ça a été publié chez Metropolis, une maison suisse. Donc chez Atland, c'est Le Tyran Juste.
Oula. Et alors, s'agissant du territoire, alors c'est une œuvre surprenante parce que c'est donc un roman de science-fiction chrétienne. La science-fiction chrétienne, après tout, est un genre, alors certes, sans doute peu connu, mais qui est bien reconnu malgré tout, qui existe de longue date en littérature. Vous vous êtes beaucoup inspiré, je crois, de Ronnie Henné, l'auteur célèbre de La Guerre du Feu.
La Guerre du Feu, voilà. De La Mort de la Terre, c'était l'ex-IPU, c'est un auteur que j'aime énormément.
La science-fiction, alors, Le Territoire, curieusement, on pourrait même dire que le choix de la science-fiction en soi est un choix relativement désincarné. D'abord, c'est un roman assez qu'on pourrait penser en contradiction avec ce que vous nous avez exposé ce soir, dans la mesure où les personnages semblent incarner des concepts, des idées, plutôt que des caractères de
chair. Oui, d'ailleurs, même y a même les noms qui disent, oui, les noms des personnages, foi, voilà. Donc je me suis amusé à ça. Mais ça permet permettait de réfléchir sur la fin du monde, sur le sens du monde, sur le pourquoi des choses, et pourquoi on vit, pourquoi on meurt, enfin c'est voilà. Et puis de redire encore à quel point l'espérance chrétienne est fondamentale, quoi.
Oui. C'est le Jean-Luc Génère théologien qui parle plutôt que le Jean-Luc Génère.
Voilà. Mais puis c'est un roman, je pense que ça se lit agréablement, j'espère. Donc c'est quand même le. Moi j'adore lire. Je lis à peu près deux livres par semaine. Je lis énormément. C'est un tel bonheur de lire et puis se dire que voilà, on peut en écrivant donner un peu de bonheur que moi j'en ai quand je lis des œuvres des auteurs que je ne connais pas personnellement, mais qui ont écrit des choses, et ben c'est un peu rendre ce qu'on m'a donné, quoi.
Oui, mais alors, bon, toujours est-il, peut-être ramenons nos auditeurs au théâtre du Nord-Ouest, encourageons-les à y courir, la programmation est extrêmement riche, et alors... Vous citiez, je me permets de vous poser cette question, puisque vous y veniez tout à l'heure, vous citiez un nom important dans votre vie, je crois, celui de Vincent Bolloré.
Oui,
parce que, sauf erreur de ma part, je crois que vous avez dit quelque part à l'ami Paul-Marie Couteau que Vincent Bolloré était en quelque sorte la bonne fée du théâtre du Nord-Ouest, et que... ce modèle économique un peu difficile que vous citiez tout à l'heure pour un théâtre d'art et d'essai avait trouvé en lui une figure secourable.
J'ai été en classe avec Vincent.
Voilà.
Voilà. Donc j'étais à Janson de Sailly, j'étais en classe avec lui.
Est-ce qu'il faisait du théâtre ?
Non, il faisait pas du tout du théâtre.
Il faisait des saillies.
Mais c'était un garçon, je dis un garçon parce qu'on était des garçons, absolument adorables. Mais charmant, vraiment intelligent, et c'était un plaisir. Puis on s'est retrouvés. Par hasard, un jour, c'est sa secrétaire qui est venue. Et puis, on était dans une situation terrible, avec des dettes, voilà. Mm. Et puis, c'était sa secrétaire-là. Puis, elle me demande ce qu'elle fait. Elle me dit, je suis la secrétaire. Mais je ne l'ai pas vue depuis 20 ans. Et vous savez, parler de lui, de moi. Ça serait, s'il pouvait nous aider, ça serait bien. Et puis, elle m'a dit, mais non, vous savez, il est très pris. Je lui ai dit, écoutez, essayez quand même. Puis, deux jours après, j'avais un message de Vincent, me disant, mais viens me voir. Et je suis monté dans ça, puis il m'a permis de sauver le théâtre, quoi.
Il est amateur,
simplement, à ce moment-là.
Comment? Il est amateur lui-même?
Non, il va jamais au théâtre. Non, non. Il est venu voir plusieurs fois, deux trois fois, il est venu au théâtre du Nord-Ouest, mais il y a longtemps.
Ah oui.
Oui.
Et alors à propos, pouvez-vous nous dire un mot du public du théâtre du Nord-Ouest? Je crois nous avons pu constater qu'il y avait un certain public scolaire, des élèves de classe préparatoire notamment.
Oui.
Mais
de lycéens.
Oui. Il y a de tout. Il y a de tout, c'est très bien. Il y a beaucoup d'auditeurs de Radio Courtoisie.
Ah, ça.
Des gens qui partagent mes convictions, mais pas seulement, théâtre, je dois... vous savez, il y a à peu près entre 300 ou 500 comédiens qui travaillent là-bas. Hein. Donc il y a toutes les opinions, les catholiques, on les compte vraiment sur les doigts de la main.
Hein.
Et les gens qui votent comme moi, il y en a très peu aussi. Hein. La gauche est triomphante dans et même voilà.
Et en fait, ça n'empêche pas du tout de faire du théâtre. Oui, voilà.
Et puis ils adorent ça. Et puis de toute façon, moi, tout le monde connaît mes opinions. Hein. Moi, j'ai jamais caché. Donc tout le monde, bon, simplement, on me connaît, on sait, voilà, on sait quelle est mon identité, on sait que je travaille à Radio Courtoisie, on sait que je suis critique à Valeurs Actuelles, on sait que je suis un gaulliste forcené, un nationaliste qui allume la France par-dessus tout, on sait que je suis catholique, enfin, tout le monde sait ça, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas, j'arrive le visage.
Parce que le...
Et donc, on se situe par rapport à ça, et puis je travaille avec des gens qui sont de gauche, vous savez,
le sens,
pleinement. Même ma fille, avec laquelle je m'engueule, elle vote Mélenchon, c'est pour vous dire. Donc, qui est quand même pas ma tasse de thé.
L'intertexte du propos de l'ami Claude Séraphin était de dire que parfois, notamment en province, il y a un public qui fréquente les théâtres qui ne donne pas forcément envie d'y aller.
Ouf, loin de moi cette idée.
Alors, c'est mon idée, du coup, je me l'approprie. Et le client de théâtre peut être quelqu'un qui, immédiatement à la sortie, va analyser, pontifier, enfonçant les sourcils.
Pas du tout ce que nous faisons en sortant du théâtre, bien sûr.
Le public du théâtre est vu comme étant effectivement le prof de français, un peu bon, austère.
Toujours est-il que, sauf erreur de ma part, malgré ce côté engagé, du moins polémique, de ce que vous faites au Théâtre du Nord-Ouest, vous n'avez jamais été empêché, comme ça a pu être le cas notamment de, Philippe Brunet à la Sorbonne il y a quelques années pour une représentation, un blackface, comme on dit.
J'y étais.
Mais Philippe, il a mis en scène une pièce au Nord-Ouest, en grec ancien.
Oui,
il y a longtemps, ça. Mais c'est la bêtise des gens. Oui. Vous savez, moi, ce que je pense surtout, c'est que le drame, c'est pas l'opposition, c'est l'indifférence.
Et vous avez le problème. Mettre en scène une pièce de Brasillac à laquelle
la Bérénice de Brasillac.
Avait assisté,
c'est pas moi qui l'ai mis en scène.
Jean-Marie Le Pen. Ah, d'accord.
Mais j'ai mis en scène le Mahomet Voltaire, par exemple.
Ah oui,
vous en parlez d'ailleurs.
Sans crainte.
Oui, tout à fait.
Et on cherchait à vous dissuader de le faire, en disant...
En disant que le théâtre allait brûler. J'ai dit, mais pas du tout, le théâtre ne brûlera pas, c'est l'indifférence. Mm-hmm. C'est l'indifférence.
Eh bien, je crois qu'il va être temps de rendre l'antenne. Peut-être juste un mot pour les auditeurs sur les prochaines programmations.
Je vous dis, la prochaine chose, là, c'est l'Oranzatio dans 8 jours, où je consacre toutes mes journées.
Rendez-vous, on y sera, j'espère.
On y sera
à un moment ou à un autre. Rendez-vous dans 8 jours pour le Resident Show. Cher ami, cher Jean-Luc Génère, merci pour cette belle évocation.
Et vous n'aurez pas droit à l'anecdote sur Le Pen. Vous raconter, mais ce sera pour une prochaine fois.
Hors micro. À dans un mois, chers auditeurs, et d'ici là, que Dieu vous garde.
Vous venez d'entendre le libre journal de Lucien Rabouille assisté de Claude Séraphin, diffusé en direct sur Radio Courtoisie vendredi 20 février 2026 de 19h30 à 21h et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros, ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.